Vous écoutez Lilin Info, le magazine consacré à l'Université Lilin, chaque mercredi entre 17h30 et 18h sur Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Mission Lilin Info, de ce jour, nous allons parler aujourd'hui du relais handicap. Avec Madame Salia Ben-Messael, qui est donc vice-présidente de la vie étudiante à Lille 3. Bonjour Madame.
Bonjour.
Et avec donc Shafika Tali, qui est responsable du relais handicap à Lille 1. Bonjour.
Bonjour.
Donc le relais handicap, il est question de quoi dans ce projet qui va se mettre en place à Lille 1 ?
Alors le relais
à Lille 3 ?
Le relais handicap, c'est déjà une structure qui est mise en place. Hein. Je vais peut-être d'abord accorder la parole à Salia, pour parler déjà des aspects politiques, hein, parce que ça fait plusieurs années que c'est en œuvre.
Voilà, donc c'est une structure
qui existe déjà donc sur le campus de Lille 3, donc également donc de Lille 1, comme vient de le faire remarquer Shafika, et donc qui répond donc à une réelle demande d'une mise en place d'une politique handicap.
Donc cette politique, elle est menée depuis combien de temps sur vos universités respectives ?
Alors, moi, je voudrais rappeler que la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, des droits et des chances pour la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap a contraint tous les acteurs à une prise de responsabilité pour mieux intégrer les personnes handicapées. Donc les universités se sont petit à petit dotées donc, d'un relais handicap, qui est une structure qui fonctionne au sein donc, d'un bureau de la vie étudiante pour le cas de Lille 3, avec un personnel administratif et un relais donc, qui est fait par le vice-président vie étudiante et également donc, des enseignants donc, référents handicap.
Donc ces deux universités, Lille 1 et Lille 3, sont associées par rapport à ce projet ou bien chacun son propre projet ?
Non, nous travaillons déjà ensemble.
En interru.
Donc Shafika pourra y revenir dans quelques instants. Nous partageons par exemple une chargée de mission, Sylvie Vincent, qui passe une partie de son temps à Lille 3 et une partie de son temps à Lille 1.
Sylvie Vincent qui ne peut pas venir aujourd'hui.
Non, malheureusement.
À cause des conditions météorologiques.
Voilà.
C'est vrai que l'accès en ce moment, notamment dans ce bâtiment de mathématiques, est assez problématique.
Hein. Oui.
On a des personnes qui tombent régulièrement.
Oui. Nous avons également le même problème à Lille 3, je vous rassure. Donc à Lille 3, il y a deux jours, je venais à Lille 3 donc en métro et à un moment donné, je me suis demandé comment un étudiant en situation de handicap, en fauteuil roulant notamment, pouvait avoir accès à la passerelle qui n'était pas du tout dégagée. Bon, il se trouve qu'avec la mairie de Villeneuve-d'Ascq, ça se passe très bien. Donc j'ai alerté l'élu vie étudiante Sébastien Coster sur ce sujet et il est intervenu. Donc, mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est pas du tout agréable.
Sur une université, qui est responsable de cet accès, notamment en période un peu perturbée comme en ce moment?
Alors, autour du campus, c'est bien sûr la mairie. Donc, une fois qu'on est sur le campus, c'est le président ou la présidente de l'université.
Voilà,
intervenir sur la problématique de l'accessibilité justement en cas de difficultés climatiques hein, comme on les connaît actuellement. C'est pas seulement le côté praticable ou accessible du campus la problématique, c'est aussi toute la chaîne de déplacement de la personne en situation de handicap. Il faut qu'elle puisse venir de chez elle jusqu'à chez nous. Si nous c'est complètement dégagé sur le campus et que c'est praticable mais que la personne ne peut pas accéder au campus, ça n'a pas de sens. Donc c'est vrai qu'il faut travailler avec les collectivités territoriales, notamment les mairies, hein, et les services techniques municipaux, pour que les chaînes de déplacement soient optimales.
Alors c'est vrai que les années précédentes, on n'a pas eu trop de soucis. Là, cette année, on semble plonger un peu dans la difficulté.
Oui.
Ça dure un peu.
Ça dure, oui.
Est-ce que ces étudiants en situation de handicap sont pénalisés dans leurs études par justement ce problème de pouvoir accéder à leur lieu d'études ?
Par rapport au temps, vous voulez dire ou...
En général, est-ce que ça pèse vraiment sur leurs conditions ?
Bien sûr. Bien sûr.
Oui, là, en termes d'aménagement pédagogique, effectivement, parce que la plupart du temps, ces étudiants doivent bien souvent concilier deux emplois du temps, l'emploi du temps pédagogique et l'emploi du temps médical, avec des suivis médicaux importants ou des rendez-vous médicaux conséquents, des soins qui sont pratiqués quotidiennement ou régulièrement, par exemple tous les matins, ou le kiné, une fois par semaine, ce genre de choses. Et donc, effectivement, il faut que nous, on puisse pouvoir juste amener des compensations à ces absences-là. Donc, effectivement, ils ne peuvent pas suivre une scolarité, je dirais, ordinaire. Les compensations, elles sont de différents ordres. On va venir souvent mettre en compensation un référent preneur de notes au sein de la formation qui puisse faire le lien avec l'étudiant absent pour lui transmettre sa prise de notes. Et puis parallèlement, si l'exploitation de la prise de notes est difficile, on vient y ajouter des heures de tutorat pédagogique individuel pour pouvoir reprendre les cours manqués et les assimiler au mieux.
Vous parliez tout à l'heure de 2005, cette loi qui a été votée, été même mise en œuvre, commencée à être mise en œuvre.
Mais les deux universités, Lille 1 et Lille 3, n'ont pas attendu la loi pour mettre en place des relais handicap au sein de leur structure, au sein du bureau de la vie étudiante. Ça s'est fait bien avant, dans les débuts des années 90. On a commencé à réfléchir à la question.
Est-ce que cette loi, donc, qui impose finalement un certain cadre, a été aussi assortie de financements particuliers ?
Oui. Donc oui, bien sûr. Donc on a au ministère une chargée de mission au handicap. Chaque université reçoit une enveloppe financière, qu'elle répartit selon les différents besoins liés à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap.
Est-ce que ces besoins évoluent d'une année à l'autre ?
Oui.
C'est-à-dire on en règle un certain moment et après on passe à autre chose ?
Oui. Donc on en règle pas nécessairement, parce qu'en fait les besoins perdurent d'une année à l'autre, puisqu'on a des étudiants qui arrivent, d'autres qui arrivent l'année suivante et qui poursuivent leurs études. Donc ensuite au niveau de ce que le ministère alloue en termes d'enveloppe financière, donc ensuite il y a des ajustements qui sont possibles selon les besoins.
Quelles sont vos priorités pour 2013 ?
Alors nous, à l'Université de Lille 3, pour 2013, c'est de faire en sorte de s'interroger sur l'insertion professionnelle de nos étudiants. Donc de les mener aussi loin que possible dans leurs études, de les accompagner au mieux et de faire en sorte de leur garantir de les accompagner dans l'insertion professionnelle.
Oui, je rejoindrai complètement Salia là-dessus. C'est vrai, c'est la problématique de l'insertion professionnelle. Il y a de ça quelques années, 2-3 ans, on s'est posé la question de l'amont, de la transition université, lycée-université. C'est quelque chose qui est assez bien parti et en marche. Donc là, le lien avec le secondaire est fait. On continue à œuvrer justement pour qu'on soit connu en amont, pendant et après, accompagner l'étudiant aussi après. Donc l'objectif 2013, c'est de développer justement l'insertion professionnelle de ces étudiants en situation de handicap.
Donc cette insertion professionnelle, on imagine que bien sûr il y a des difficultés, que certaines entreprises peuvent aussi avoir une politique volontariste, voire des moyens d'accueil et peut-être au niveau des charges sociales peut-être ou salariales, des aides qui permettent d'intégrer un certain nombre de personnes en situation de handicap à l'entreprise et qui ne sont pas toujours bien connues et exploitées.
Exactement. Donc c'est toute la partie sur laquelle travaille Sylvie Vincent, qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. C'est de faire connaître auprès des entreprises les possibilités, les subventions possibles aussi, et puis les organismes de subvention. On parle principalement de l'AGFIP pour toute la partie privée et du FIPHFP pour la partie publique. Donc c'est des associations qui ont pour mission d'aider à des adaptations de postes et à accompagner les missions handicap des entreprises. Donc là, Sylvie Vincent, qui est chargée de mission au sein des deux universités, c'est un poste inter-U, donc c'est une création un peu pilote. C'est le seul poste inter-U en France. Hein, donc on peut dire qu'on en est fiers, hein, ici en tout cas à Lille 1, et je suppose que
l'Île-3
nous rejoint particulièrement là-dessus. Donc elle s'occupe d'accompagner les étudiants. Alors il faut faire attention, hein, c'est pas un guichet à stage ou à insertion pro. Hein. Elle ne trouve pas les stages, elle ne trouve pas le travail pour l'étudiant. Il est acteur dans le processus. Elle fait le lien entre le panel des entreprises et les étudiants en demande, hein, entre l'offre et la demande. Pour que nos étudiants puissent s'insérer et concrétiser leurs projets professionnels. Il est vrai que les entreprises ont une obligation d'emploi des travailleurs handicapés, hein, ce qu'on appelle l'OETH, hein, qui est de 6%. Et donc, ces entreprises commencent à être de plus en plus demandeurs aussi, hein, d'étudiants en situation de handicap, hein, de jeunes diplômés en situation de handicap, pour venir combler cette obligation-là, qui est assujettie à une participation forfaitaire si on n'a pas atteint les 6%.
Moi, je souhaiterais rappeler que les établissements publics sont également contraints.
Oui.
Donc, au recrutement des personnes en situation de handicap.
Alors, quand on dit contraint, c'est obligé ou pénalisé s'ils ne le font pas ?
Ça sera pénalisé si on ne le fait pas.
Il y a une contribution qui est donc à payer aux deux organismes, hein, la GFIP pour le privé et le FIPHFP. Donc, si on n'a pas atteint cette obligation des 6%, donc il y a une contribution qui est calculée par rapport au manquement, hein, de ces 6%.
Et qui est reversée.
Est reversée, justement, pour des adaptations de poste et l'accompagnement des nouveaux travailleurs handicapés.
Non, là, on traverse une période difficile pour l'emploi. Est-ce que les personnes handicapées souffrent davantage que les autres ou non ?
Ordinairement, sans période difficile, oui. Déjà.
Même pour les stages.
Oui.
Toujours difficile de... Je pense que Sylvie Vincent pourrait répondre dans l'affirmative et pourrait témoigner. Pour les stages, il est souvent très difficile pour un étudiant qui est en situation de handicap de trouver un stage, d'être en mesure aussi d'aller donc sur son lieu de stage, de pouvoir donc faire ce stage.
Mmh. Nous avons le plaisir d'accueillir dans une de ces dernières émissions un étudiant chercheur en master qui développe son projet autour de la myopathie. Donc il est à la fois atteint de cette maladie et aussi chercheur dans ce domaine-là.
Oui. C'est un étudiant qu'on connaît très très bien au niveau du relais handicap de Lille 1, parce qu'on l'accompagne depuis son arrivée. Donc on l'a connu primo-arrivant, néo-bachelier. On est très fiers du parcours qu'il a accompli jusqu'à présent. Effectivement, on ne s'inquiète plus du tout. Hein. C'est pour... vraiment, on est sur un exemple qu'on cite assez régulièrement. Hein. Il a réussi grâce à sa volonté, principalement. Même si lui témoigne souvent des compensations et de l'aide et de la main tendue aussi bien sur le terrain que sur l'esprit politique que Lila a pu apporter à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Donc voilà.
Alors c'est vrai que ça passe par beaucoup de volonté aussi des personnes et puis aussi de l'environnement familial parfois aussi.
Exactement,
aussi, oui.
Comment vous ressentez les relations d'un étudiant avec sa famille ? Est-ce que vous, il y a une cellule éventuellement d'accompagnement ici qui permettrait de favoriser un petit peu ces échanges ou la prise en compte de ce handicap et trouver des solutions adaptées ? L'accompagnement ?
Moi, je sais que pour l'université Lille 3, donc il n'y a pas de rapport. Enfin, il y a des rapports avec la famille éventuellement, donc pour certains cas, hein, quand les parents donc contactent par exemple le relais handicap ou le médecin du centre de santé. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'étudiant est majeur et que donc, comme tous les étudiants, logiquement, donc on n'a pas, on n'est pas en relation avec la famille. Donc ça dépend. Ensuite, on peut très bien avoir rencontré des parents quand l'étudiant vient s'inscrire pour la première fois sur le campus. Ça a été le cas pour moi une année où l'étudiante venait de Paris et donc la maman m'avait demandé si elle pouvait accompagner sa fille pour faire un petit peu le tour des locaux. Donc moi, je n'ai vu aucun inconvénient. Mais généralement, on n'a pas vraiment de contact avec les parents. C'est très rare.
Oui, pour Lilin, c'est similaire. On a très peu de contact direct avec la famille. C'est aussi un esprit université au-delà de la situation de handicap hein, de la personne. On considère l'étudiant directement, on a très très peu de liens avec la famille, sauf les familles qui sont peut-être un petit peu plus partie prenante, mais on essaie quand même d'avoir un lien direct avec l'étudiant et qu'il soit principal acteur aussi dans son cursus universitaire, au-delà du relais handicap, que ce soit avec le secrétariat pédagogique, les directeurs d'études, on est en lien direct avec l'étudiant et très peu avec la famille, oui.
Alors, ce relais handicap est à la disposition, bien sûr, des étudiants qui en ont besoin. Sur Internet, je suppose que l'université a une page réservée.
Exactement, oui.
Et on peut vous contacter régulièrement. Enfin, c'est assez simple. Comment ça se passe ?
Donc, les noms, enfin, moi, mon nom apparaît, bien sûr, sur le site 3. De l'Université de Lille 3. Le nom de toutes les personnes qui travaillent au relais handicap, avec un numéro de téléphone. Une adresse, bien sûr, mail commune qui relaie handicap, donc unif-lille3.fr. Donc, les étudiants donc, peuvent, en effet, nous contacter directement avant l'inscription à l'université. Mmh. Donc, une fois que les étudiants prennent leur inscription, il faut savoir que... ils peuvent ou non se déclarer en situation de handicap. Donc un étudiant qui est handicapé peut très bien ne pas avoir envie, pour des raisons XY, de ne pas faire appel au relais handicap et on ne peut pas l'obliger. Donc ceux qui cochent la case donc, en situation de handicap donc, sont ensuite contactés par le médecin du centre de santé, donc Jean-Louis Leroy, et donc, qui fixe un rendez-vous avec eux et qui ensuite définit dans un premier temps avec eux les modalités en fait, à mettre en place pour les accompagner au mieux dans leur parcours, pour les examens. Mais une fois qu'ils se sont rencontrés, donc on organise donc une commission plurielle donc qui va donc statuer sur l'aménagement des examens. Et donc ensuite, ça se passe en commission plurielle. Donc, je pense qu'à Lille 1, ça doit se passer.
C'est exactement le même schéma. Exactement. Mmh. C'est le médecin référent handicap effectivement, qui prend contact avec les étudiants qui se sont recensés. Alors, c'est vrai que moi, je tenais à mettre une petite précision. Ceux qui se recensent se retrouvent dans le terme handicap. Et au fur et à mesure de l'année, le chiffre va s'étoffer parce qu'il y a des étudiants qui vont passer la porte qui ne se reconnaissaient pas dans le terme relais handicap. Je vais vous parler de tout ce qui est dyslexie, des handicaps aussi temporaires. Alors souvent, on se dit, je suis en fauteuil, le relais handicap, c'est pour moi. Ou je suis malvoyant, malentendant, c'est pour moi. Et puis, il y a un panel d'étudiants qui sont atteints de maladies chroniques invalidantes et qui ne se reconnaissent pas dans le terme handicap et qui ont besoin de compensation. Et quand ils atterrissent chez nous, ils se disent « mais oui, mais moi je ne suis pas handicapé ». Voilà, je suis diabétique, je suis dyslexique, mais je ne suis pas handicapée. Et quand on passe cette barrière-là et qu'on leur explique les compensations et les aides qu'on peut leur apporter... Ils ont un tout autre point de vue de ce que peut proposer la structure.
Qu'est-ce que vous avez recensé comme difficultés, j'allais dire, pour lesquelles on vous sollicite prioritairement ?
Les difficultés, c'est d'apporter la meilleure des réponses par rapport à la difficulté, déjà. C'est l'analyse des besoins, dans un premier temps. Des fois, ils arrivent avec une liste de besoins qui est démesurée par rapport à la réalité, ou à l'inverse, avec des besoins conséquents, mais ils n'en veulent pas. Je pense qu'il y a un cheminement aussi psychique à faire de la part de ces étudiants-là pour réguler et avoir la meilleure des réponses. Donc la difficulté, c'est ça, hein, dans le premier accueil, hein, c'est de pas être dans la surcompensation ou à l'inverse, dans la sous-compensation. C'est de répondre aux besoins. Ça se fait pas en un seul rendez-vous, en une seule rencontre. Hein. C'est un long travail aussi. Des fois, ils reviennent et puis ils disent « Ah bah oui, au final, ce que vous m'aviez proposé, j'en ai besoin. » Et donc voilà, on est amené à les rencontrer plusieurs fois dans l'année et à les suivre. Quand on parle de suivi pédagogique, c'est réel. On les suit tout au long de l'année. C'est pas qu'une seule et unique rencontre où on fait l'évaluation des besoins, on met en place des compensations et puis c'est terminé. Non, non. C'est un vrai travail de relation à l'autre, d'aide à l'autre et un climat de confiance qui doit s'installer des deux parties. Parce que nous aussi, on doit faire confiance à l'étudiant. Même si lui doit nous faire confiance, c'est dans les deux sens.
Donc ces étudiants passent ici quelques années, après ils sont dans le milieu professionnel quand ça se passe bien. Hein. Mm-hmm. Entre deux, il y a des aides possibles, des conseils aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil maintenant à un étudiant qui cherche un travail, qui veut s'insérer cette année au sortir de son diplôme, de ses examens qui vont arriver bientôt ?
Le conseil.
Alors le conseil à donner à un étudiant, comme pour tous les étudiants en fait, oui. Moi j'aurais tendance à dire ne pas forcément voir le handicap comme une barrière, mais plutôt se dire qu'on doit trouver, l'employeur devra trouver de toute façon des solutions pour justement intégrer les personnes en situation de handicap comme toute personne. Donc c'est ça qui est important, faire en sorte que l'environnement soit accueillant. Donc moi, le conseil que je donnerais, ce serait plutôt, si un étudiant a un objectif professionnel, il réussit ses études, il réussit son parcours, et qu'il souhaite répondre à une offre d'emploi, il doit y répondre et pas se dire que cette offre d'emploi n'est pas faite pour lui.
Dans le CV, est-ce qu'on mentionne qu'on est handicapé ou pas ?
Logiquement, il me semble qu'on ne doit pas.
Alors, c'est toute la question. Est-ce que je le dis ? Est-ce que je le dis pas ?
Voilà,
si je le dis, quand je le dis et comment je le dis ?
Voilà.
On a parlé des CV anonymes, mais ça pourrait être aussi un point.
Oui, parce que le handicap, c'est pas que le handicap moteur ou sensoriel et tout ça. On peut dire aussi un handicap à la consonance du nom, par exemple, ou à le lieu d'habitation. Hein. J'ai vu ça dernièrement dans une émission où des fois certains lieux d'habitation difficiles de citer, où valait mieux mettre une autre adresse que de mettre l'adresse de telle ou telle cité. Ça pouvait être discriminant sur un CV. Donc ça se retrouve dans ce chapeau-là, hein, des points discriminants. Et alors à un moment on en parle, le handicap, oui ou non, mais bon, quand il est visible, on n'a pas le choix, on en parle hein, dès le premier entretien. Quand c'est non visible, ben, c'est au libre choix, je pense au libre arbitre de la personne porteuse du handicap.
Si on voit un petit peu les statistiques de vos universités, combien de personnes en pourcentage étudiantes seraient atteintes de handicap ?
Alors, moi, je peux vous donner un chiffre qui est tout récent, c'est le chiffre des dossiers qu'on a traités en commission. Donc, on en est à 259 dossiers depuis septembre.
Sur combien d'étudiants ?
Donc, sur l'île 3, environ un peu plus de 18 000 étudiants.
Mmh. Alors, pour l'île 1, je vais vous donner les chiffres de l'année dernière. On n'a pas encore fait le point sur les chiffres de cette année. On a recensé un peu plus de 210 étudiants en situation de handicap. Donc, connus, enfin, suivis, qui se sont manifestés. Après, il y a ceux qu'on ne connaît pas. Pour à peu près 20 000 étudiants, donc 1%. Mm-hmm. C'est pas...
Donc, effectivement, ces étudiants, en général, sont des gens assez volontaires, hein, qui ne perdent pas espoir facilement. Ils ont déjà passé le plus gros, on va dire, à l'école, au lycée. Et voilà, mm-hmm. Donc, ils ont déjà une certaine forme d'adaptation à des difficultés. Là, ils sont en université. Qu'est-ce que ça change pour eux, ce passage à l'université, par rapport à ce qu'ils ont connu avant, au lycée, par exemple ?
Alors, ça dépend des personnalités des étudiants, je dirais. Mais ce qui change pour l'étudiant, qu'il soit en situation de handicap ou pas, c'est l'autonomie. C'est ce passage au cadre qui est beaucoup moins défini. Et qu'on soit en situation de handicap ou pas, c'est principalement se prendre en main et être autonome. Là, par rapport au secondaire, hein, je dirais. Généralement, quand ils sont en situation de handicap, sur des handicaps durables, je dirais, et qui sont là installés depuis plusieurs années, voire depuis la naissance, ils connaissent leurs possibilités et souvent, ils apportent la réponse, ils nous apportent les réponses à leurs besoins.
Voilà, eh bien, pour conclure ce sujet, donc le relais handicap dans vos deux universités est bien sûr à la disposition du public d'une manière large. Oui. Comment on vous contacte ?
Alors pour le relais handicap de Lille 1, vous pourrez trouver les coordonnées sur le site de l'université, aisément, hein, à la rubrique vie du campus. Je vous en prie.
Pour l'université de Lille 3, donc pareil, sur le site de Lille 3, donc à la rubrique vie étudiante.
Voilà, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne année et puis aux personnes qui ont des problèmes, qui puissent vous contacter en espérant que vous trouverez des solutions adaptées, que ces campus aussi favoriseront leur intégration et leur apprentissage donc sur toute cette année et les années qui viennent, bien sûr.
Nous l'espérons. Donc, bonne année également.
Merci. Meilleurs vœux à vous aussi. On fera au mieux.
Merci.
Merci beaucoup.
Ben Messaël et donc Shafika Tali.
Merci bien.
Merci.